Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Monique Serrault-Chalbi de l'association France-Palestine Solidarité.
Bonjour.
Nous devons parler du rassemblement qui était prévu le 11 mai, mais d'abord de l'actualité qui se passe en ce moment en Palestine et à Gaza.
Et notamment à Gaza. À Gaza, depuis vendredi, 3 morts du côté palestinien, 6 morts du côté israélien. Donc les roquettes du Hamas contre les missiles de l'État, enfin de l'armée de Sahel. Donc il faut savoir qu'entre les deux, malheureusement, il y a toute une population civile. Il y a eu 2 femmes enceintes, des bébés qui ont été tués. Et c'est des immeubles qui ont été complètement détruits par les missiles. Et la situation est intenable. Il faut savoir que aucun pays d'Europe n'a l'air de bouger pour essayer de parlementer avec le gouvernement de Netanyahou pour que les choses qui se passent en ce moment à Gaza s'arrêtent.
Alors tout est bloqué, même la mer.
Exactement. Bon, la mer, ça fait un moment que, de toute façon, les Gazaouis n'ont pas tellement la possibilité d'y aller. Mais bon.
Et les pêcheurs ne peuvent pas sortir.
Absolument.
Et non seulement ça, mais on a bombardé leurs installations.
On a bombardé leurs installations. De toute façon, maintenant, depuis les premières, depuis plomb durci, depuis bordure protectrice, etc., Gaza, ce n'est plus qu'un champ de ruines. On n'a jamais le temps de reconstruire ni les hôpitaux, ni les écoles. L'an dernier, ça a été le centre culturel qui a été bombardé. Et il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes d'électricité, il n'y a plus d'hôpitaux vraiment en état de fonctionner normalement. Et la population, qui a une démographie immense, se retrouve coincée dans une toute petite partie. Et il faudrait que l'on arrête le blocus de Gaza, déjà, pour que les choses s'améliorent.
Et c'est quelque chose qui est réclamé par toutes les associations, justement,
totalement,
qui suivent ce problème du
totalement.
Proche-Orient.
C'est absolument invivable, et ça n'est pas une histoire d'être pro-palestinien, c'est juste une histoire de justice. Et effectivement, il ne faut pas non plus angéliser tous les Gazaouis en pensant que ce sont des saints. Il y a effectivement le Hamas, qui est assez virulent, qui envoie souvent des roquettes sur Israël, mais il faut aussi expliquer, je n'ai pas dit justifier, hein, expliquer que quand on est dans la situation où sont les Gazaouis, on peut très bien effectivement rejoindre le Hamas, voire pire, se retrouver dans un groupe de djihadistes. Parce que l'injustice, au bout d'un moment, ça peut changer les mentalités. Et en cas de désespoir, on peut aller dans le camp qui n'est pas forcément le meilleur.
Alors, il faut rappeler que les marches du retour ont toujours lieu le vendredi.
Tout à fait, les marches du retour. Donc
alors, ça fait maintenant combien de temps que ces marches se déroulent?
Ça fait plusieurs mois, ouais. Ça fait un sacré bout de temps. Et chaque semaine, on compte des morts ou des mutilés. Parce que l'armée israélienne a décidé d'envoyer des balles explosives dans les genoux des adolescents pour les rendre infirmes à vie. Donc c'est inadmissible que ça se passe, mais c'est inadmissible que personne ne bouge, que personne ne se manifeste. Nous, on essaye de joindre le gouvernement pour qu'il prenne position. Et donc on parlait de Gaza, mais on va revenir à la raison pour laquelle je suis ici, c'est-à-dire le rassemblement à 15h samedi 11 mai à la Comédie. Rassemblement qui est là pour rappeler que le 11 mai 1949, Israël a été reconnu comme État par l'ONU. Or, 70 ans plus tard, la Palestine n'est plus un État, n'existe pas, elle a juste un siège d'observateur à l'ONU et elle n'a pas de raison. Elle n'a pas d'existence réelle auprès de l'ONU ni auprès de beaucoup.
Alors, et reconnaître l'État de Palestine, c'est justement ce qui est réclamé.
Totalement.
À nos autorités françaises.
C'est ça.
D'abord.
Et une reconnaissance immédiate. D'autant qu'il y a eu une loi qui est passée en 2018, mais qui a été approuvé début 2019, Israël, l'État d'Israël, le gouvernement d'Israël a décidé de faire de son pays un État-nation. Donc toutes les minorités en plus des Palestiniens, sont des citoyens de seconde zone. Les Juifs sont les premiers servis, ce sont les seuls légitimes de ce pays. La langue arabe, qui était une langue officielle, ne l'est plus. Donc c'est dramatique ce qui se passe là-bas. Beaucoup de Juifs de la diaspora, que ce soit aux États-Unis où Trump a pris parti pour Netanyahou, luttent contre ce qui se passe en Israël, ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en Israël. Et même en Israël, il y a des associations comme B'Tselem, par exemple, qui sont pour la justice pour les Palestiniens.
C'est pourquoi aussi il y a des refusniks.
Totalement. On avait reçu, il y a deux ans, avec quatre jeunes d'une fratrie de musiciens druzes, on avait reçu une jeune refusnik qui avait fait 5 mois de prison pour avoir refusé d'entrer dans l'armée pour combattre les Palestiniens.
Alors ça continue.
Ça continue, il y a toujours beaucoup de jeunes qui effectivement luttent auprès des Palestiniens et refusent. Récemment, il y avait encore un jeune homme qui a été mis en prison pour avoir refusé de prendre les armes et d'être dans l'armée.
Malgré ce, il y a toujours ce silence en fait sur ce qui se passe en Palestine dans les informations qui sont diffusées aux Israéliens.
Tout à fait, oui. Mais chez nous, il y a une grande confusion, un grand amalgame entre les mots ont énormément d'importance. Et quand on nous serine que l'antisémitisme et l'antisionisme sont des synonymes, on culpabilise toute personne qui cherche à donner un début de vérité sur ce qui se passe en Palestine. Non, l'antisémitisme, c'est quelque chose... C'est un délit et nous sommes contre l'antisémitisme. Nous luttons avec les Juifs quand ils sont atteints par ce fléau. Mais l'antisionisme, c'est autre chose. C'est une doctrine contre laquelle nous sommes.
Et qui, malheureusement, en Israël, se développe de plus en plus avec le gouvernement actuel.
Le gouvernement est un gouvernement d'extrême droite. Et en plus, il a le soutien de Trump, de Bolsonaro, de personnes qui ont une certaine puissance. Et en face, il y a le silence de beaucoup d'États. La situation en France n'est pas très claire sur ce qui, d'un côté, ils condamnent, de l'autre côté, ils ne disent rien. Il faut vraiment, vraiment qu'on se mobilise pour faire comprendre que l'État d'Israël est un État raciste, un État d'apartheid, et que c'est inadmissible. En plus, dans quelques jours, le 14 mai, va débuter l'Eurovision, la fameuse Eurovision, dans laquelle nous participons. Un jeune chanteur fait partie de l'Eurovision et, malgré nos demandes, a refusé de se retirer de la liste.
Alors on dit justement que le Hamas a repris plus d'activité parce que il veut négocier par rapport à l'Eurovision des contreparties.
Oui, oui, effectivement, mais bon, c'est de toute façon c'est compliqué. Ce qu'il faut faire, c'est condamner tout ce qui se passe, c'est-à-dire les colonies qui sont de plus en plus importantes, le fait que Jérusalem-Est va bientôt être complètement libérée de tous ces Palestiniens, le fait qu'on démolisse toutes les maisons des Palestiniens. Vivre en Palestine, c'est quelque chose d'épouvantablement difficile. Quand on voit aussi à Hébron, Chouada Street, qui est une rue qui est complètement fermée, où tous les magasins ont été fermés pour le confort des colons, c'est inadmissible, c'est de l'injustice.
Et les colons qui jettent leurs ordures en plus
sur la tête des gens, oui, tout à fait.
Alors, vous avez apporté de la musique, de quoi s'agit-il ?
Alors, comme il était question de parler d'un événement qui a eu lieu il y a 70 ans, j'ai trouvé de la musique qui datait de l'époque, des chants palestiniens.
Alors, nous allons écouter...
حسامك من غمضي فليس له بعد أن يمدى.
Donc après ce chant palestinien, j'en reviens à cette notion d'apartheid, parce que vous avez dit tout à l'heure que les mots, il fallait bien les choisir. Alors peut-être qu'il faut rappeler à nos auditeurs pourquoi on parle d'apartheid. Et qu'est-ce que l'apartheid ?
L'apartheid, quand on parle d'apartheid, on pense tout de suite à l'Afrique du Sud, puisque d'ailleurs c'est un mot qui vient du hollandais, je pense, apartheid. Et donc à ce qui s'est passé il y a une trentaine d'années encore en Afrique du Sud. L'apartheid, c'est quand on...
Une ségrégation raciale.
Une ségrégation raciale, c'est quand on sépare les ethnies les unes des autres, quand on en favorise une par rapport à l'autre, et quand on a des soldats qui donnent automatiquement raison à ceux qui sont de leur sang.
Or, pourquoi peut-on parler maintenant de l'apartheid israélien ?
Ben, quand on va à Hébron, par exemple, bon, Gaza, malheureusement, en ce moment, c'est pas très facile d'y aller, mais je peux donner l'exemple d'Hébron, où je suis allée avec certains de nos camarades de l'AFPS. Hébron, c'est justement l'image même de l'apartheid, puisque j'ai parlé de cette rue Chouada Street, dont tous les magasins palestiniens ont été fermés, ce qui veut dire que les propriétaires n'ont plus eu de travail du jour au lendemain, parce que des colons se sont réinstallés au-dessus. Et donc, pour leur confort, on a décidé de virer tous les Palestiniens qui étaient là. Et à Hébron, tous les jours, il y a des violences contre les Palestiniens. Il y a des Palestiniens qui sont obligés de mettre des grillages devant chez eux pour ne pas recevoir les pierres des petits juifs qui sont envoyés par leurs parents pour agresser les autres. Hébron, c'est vraiment une ville où deux entités vivent les unes à côté des autres, mais les unes contre les autres. Parce que, effectivement, être palestinien et Hébron, c'est prendre un risque chaque fois qu'on va dans la rue.
Alors, ça, c'est déjà depuis assez longtemps.
Oui, tout à fait.
Mais il y a un durcissement de la situation depuis le 18 juillet, parce que la Knesset a voté la loi dite de l'État-nation du peuple juif.
C'est une loi qui est absolument illégitime. L'État-nation, c'est quand même... Alors, ça rappelle malheureusement un autre État-nation dont les Juifs ont été victimes autrefois. L'État-nation, c'est donner l'avantage à tous ceux qui sont considérés comme légitimement du pays, et à mettre de côté tous ceux qui sont en minorité ou qui ne correspondent pas à ce qu'il faut être pour obtenir donc le nom de citoyen.
Et alors la loi, cette loi de l'État-nation du peuple juif, elle fait également de la colonisation une valeur nationale.
Tout à fait.
Donc c'est un régime d'apartheid qui est maintenant officialisé.
Complètement. Mais alors... Ça prend des proportions, c'est sur la culture aussi, la seule culture, la musique, toute la musique devient de la musique juive. La gastronomie, ils ont fait des livres de cuisine où ils mettent le hummus ou d'autres plats qui sont quand même soit palestiniens, soit libanais ou jordaniens. Ils mettent ça comme des plats juifs. Donc c'est assez. Ils effacent absolument la présence palestine dans tous les domaines.
Et alors, ça se passe dans plusieurs zones, on peut dire, parce que les citoyens palestiniens d'Israël, qui sont 20% de la population, sont discriminés.
Totalement, oui. Mais quelle que soit l'appartenance à Jérusalem, à la Cisjordanie ou à Gaza, de toute façon, tous les Palestiniens sont discriminés d'une manière ou d'une autre. En plus, des familles ont été séparées. Moi, j'avais rencontré une Palestinienne qui était de Bethléem, qui a été mariée à un homme de Jérusalem. Eh bien, pendant 6 ans, elle n'a pas pu revoir sa famille, qui habitait donc à 6 kilomètres, parce que Jérusalem et Bethléem, ça se touche presque. Parce qu'en plus, les citoyens qui sont reconnus comme de Jérusalem, ils doivent respecter un couvre-feu, ils doivent avoir toujours des papiers sur eux pour prouver qu'ils sont bien de là, et s'ils partent trop longtemps de Jérusalem, ils peuvent être bannis.
Oui, c'est un permis révocable à tout moment.
C'est ça. Et à la seule volonté du gouvernement israélien.
Quant en Cisjordanie, c'est un territoire occupé, ils sont régis par le droit militaire israélien, donc c'est une vraie colonie.
Tout à fait. Tout à fait. Et quand on va là-bas...
Le réseau routier est même séparé.
Oui, tout à fait. Quand on va là-bas et qu'on traverse la route, il y a des choses qui vous choquent quand vous n'êtes pas au courant. Par exemple, vous êtes sur la route et vous voyez que sur votre gauche, vous avez un terrain sec où il y a 3 brins d'herbe et 2 moutons et une guitoune un peu plus loin. Et de l'autre côté, des palmeraies, des serres et des villas avec piscines, etc. Donc vous avez le côté palestinien et le côté israélien.
Oui, c'est l'appropriation de l'eau.
Oui. Les Palestiniens sont obligés d'acheter leur propre eau. Ils ont des citernes et ils ont une certaine quantité d'eau chaque semaine. Ils ne peuvent pas avoir l'eau à volonté. Ils sont obligés de payer leur eau.
Alors, nous allons écouter à nouveau de la musique, donc qui date de 70 ans.
Tout à fait.
Alors, ce que vous demandez donc pour ce rassemblement, c'est aux Montpelliérains de signer des cartes pour demander justement cette reconnaissance de l'État palestinien. Oui. Il faut rappeler que depuis le vote du Parlement français de décembre 2014, qui a demandé au président de la République de reconnaître l'État de Palestine, 4 années ont passé et toujours rien n'est fait.
Oui, nous avons des cartes que nous envoyons donc au gouvernement et aux différents responsables, que vous trouverez sans doute samedi quand vous viendrez, parce que j'espère que vous viendrez au rassemblement à 15h. Et si vous faites partie des manifestants habituels du samedi, vous pourrez vous joindre à nous l'espace d'une demi-heure au moins. Et puis si vous n'en faites pas partie, venez nous voir aussi. Et plus on sera nombreux pour écrire au gouvernement français de prendre une position ferme, plus la Palestine aura de chances d'exister.
Alors, ces cartes seront remises à la préfecture pour être transmises aux autorités.
Tout à fait.
Donc, vous allez demander sans doute à être reçu.
Je pense, je n'en ai pas la certitude pour l'instant, mais je pense que oui.
Alors, dans le calendrier, justement, il y a d'autres choses prévues concernant la Palestine. Mardi 7 mai à 19h à la Carmagnole, 10 rue Haguenau. C'est une rencontre débat sur le boycott culturel de l'État d'Israël, un boycott légitime, en présence de signataires de l'appel des 36 artistes de Montpellier contre la saison France-Israël.
Oui.
Et c'est organisé par le comité BDS Montpellier. Oui. Et puis, il y a un débat qui est proposé.
Alors, nous,
aussi.
Nous, nous avons une position à propos de du boycott culturel qui est un peu moins ferme. Il y a des Israéliens, que ce soit des écrivains, des cinéastes ou des personnes de théâtre qui ont une position loin de celle du gouvernement d'Israël. Donc ceux-là, on ne les boycotte pas.
Alors donc là, il y a également un débat vendredi 10 mai à 18h30 qui se passe au Temple de Maguelone, rue Maguelone. C'est organisé par le CCFD et le groupe Kéros, qui est venu déjà s'exprimer.
Qui font partie du collectif Palestine 34. Désolé pour mon bégaiement ce matin.
Oui.
Ça doit être l'émotion, l'énervement de savoir ce qui se passe en ce moment à Gaza. Je vous prie de m'en excuser.
Alors, chrétiens mobilisés pour la paix au Proche-Orient. Le CCFD est intitulé aussi « Comment être acteur de paix en Israël et Palestine ?» Un rôle pour les chrétiens. Donc, c'est avec Bertrand Vergnol, pasteur, responsable du programme qui est ce programme pour la paix en Palestine et Israël, observateur écuménique pour la paix en Palestine et Israël. C'est le programme EAPPI. Et la participation de Nani Noquet, qui est professeur d'Ancien Testament et doyen de la faculté de théologie de Montpellier. Donc, vendredi 10 mai à 18h30 au Temple. Alors, l'AFPS continue aussi son action pour les prisonniers politiques.
Oui, bien sûr. Bien sûr. On a fait d'ailleurs récemment une action sur la place de la Comédie qui a été très bien perçue. On a eu beaucoup de personnes qui se sont arrêtées, avec qui on a pu discuter. Il faut savoir qu'il y a des enfants qui sont en prison, des femmes, qu'il y a des gens qui sont depuis des années en prison, qui ont des maladies graves, qui ne sont pas soignées, que l'on arrête pour un rien, et que donc vous avez des enfants de 12 ans qui sont en prison sans qu'il y ait de raison vraiment, de motif avéré.
Oui, c'est très grave. Alors je passe au calendrier, donc pour vous rappeler que le mardi 14 mai, de 12 à 14 heures à l'espace Martin Luther King, aura lieu le café actualité du Centre Documentation Tiers Monde. Et cette fois-ci, c'est le mouvement Boko Haram dans la région du lac Tchad. Origine, mutation, situation actuelle. C'est Christian Seignobos, géographe, directeur de recherche émérite à l'IRD, qui nous fait le plaisir de venir parler de Boko Haram. L'entrée est libre, dégustation de café du commerce équitable pour tous ceux qui viendront. Il y a également donc un appel d'enfants du Mékong pour le triathlon du Salagou qui se passera le samedi 25 et le dimanche 26 mai. Enfants du Mékong recherche un grand nombre de bénévoles aidant au déroulement de la manifestation. Le covoiturage est à partir de Clapiers, le rendez-vous au 192 allée du Bois du Prieur, et l'aide de tous ces bénévoles permettra de participer au financement de la reconstruction de deux ponts à Hom Pen au Laos. Vous pouvez contacter Jean-François et Marie-Sylvie Achard au 06 60 12 58 02. Enfin, le vendredi, ah oui, le mercredi 8 mai, à 18h30 à la Villa des Vignes, 20 rue Clémentville à Montpellier, c'est une rencontre pour présenter la rencontre Terre de Convergence 24-29 août en Cévennes pour co-construire la transition écologique et le week-end des 11 et 12 mai au Vigan pour co-construire cet événement. Un buffet dînatoire sera offert et c'est organisé par Alternativa, donc mercredi 8 mai. Vendredi 10 mai, dimanche 12 mai, ce sont les journées Stop aux pesticides à Moggio et Carnot. Vendredi 10 mai, cela se passe à 20h à la salle Aimé Césaire, à la mairie, à Carnot, avec présentation du film Révolution verte urbaine, suivi d'un débat « Peut-on se passer des pesticides chimiques de synthèse ?» La participation est libre. Et dimanche 12 mai, c'est de 9h à 18h au verger de la Fabrique citoyenne, chemin du Mas de Fabre à Moggio. Une journée champêtre conviviale et festive avec les semeurs de jardin, Vert Popa, Caroline Garrigue, Robert Morez, avec stand, atelier et toujours entrée participation libre. Le samedi 11 mai à Bouzix, la journée du Créo Languedoc sur renseigner la biodiversité dans le cadre de Total Festum. À 14h, une conférence musicale de Philippe Carcasse sur le hautbois de Languedoc. À 15h30, une intervention d'Hélène Morsley, cinéaste, filmé ici, filmé avec, filmé pour. Et à 18h, l'intervention des élus, 18h30, un concert du groupe UEI, formation de 4 chanteurs percussionnistes qui chantent leur vision poétique d'un monde en crise. Et jeudi 16 mai à 18h à la Gazette Café 6 rue Leva, dans le cadre de la journée mondiale décrétée par l'UNESCO, vivre ensemble dans Montpellier, la métropole, que suggèrent les 4 grands débats menés au Faubourg, en lien avec l'urgence du pacte social et écologique, c'est organisé par le pacte civique. Et puis je termine en disant que beaucoup de formations sont organisées par Occitanie Coopération. Ces formations organisées à Montpellier vont se dérouler du 13 au 17 mai pour créer un film, réalisation et tournage niveau 1. Le vendredi 17 mai sur financer son projet de solidarité internationale. Le jeudi 23 mai, ce sera de l'eau domestique à l'agriculture, retour d'expérience de l'association Kiraru au Burkina Faso et en Inde, avec la présence exceptionnelle des directeurs d'antenne du Burkina et d'Inde. Du lundi 27 au mercredi 29 mai, c'est « Devenir cyberactiviste, défendre le bien commun en ligne ». Et le mardi 28 mai au vendredi 31 mai, la facilitation de groupe par le Théâtre Forum. Donc, vous voyez, beaucoup de formations qui sont proposées aux acteurs de la solidarité internationale par Occitanie Coopération. Vous pouvez regarder tout cela sur le site www.oc-coopération.org. À bientôt, chers auditeurs. Merci, moi,
Monique. Bonne semaine et alors à samedi, j'espère. Thank you.